Salut tout le monde, bienvenue à au quatrième épisode du laboratoire OPA, non encore en train d'être travaillé. Moi je m'appelle Charles, je suis un des copropriétaires d'Optimum Performance Athlétique. Je vais être joint dans pas long par mon partenaire Louis-Jean, le scientifique fou de OPA. Puis aujourd'hui on va parler de développement de puissance. Puis, je pense que c'est une question. Je pense que c'est une question qui est sur l'esprit de beaucoup de nos athlètes. Puis, on a déjà adressé. Salut, mon loup. On a
Comment ça,
déjà
Pierre, ça va?
adressé l'hypertrophie. On a déjà adressé la force. On a parlé de périodisation. Donc, la prochaine étape logique dans cette discussion-là, c'était vraiment de parler de puissance. Puis, étant donné qu'on travaille avec beaucoup d'athlètes qui pratiquent des sports de puissance, je pense que c'était bien attendu là, cette petite conversation-là. Comment tu es en train de profiter du soleil, toi là, là, mon maudit?
Pas le choix, c'est bon, on est dehors.
Gâté, pourri. Écoute, donc peut-être nous faire un petit topo vraiment rapidement de tu sais par où commencer quand on pense à développer de la puissance. Est-ce que si on pratique un sport de puissance, on devrait sauter tout de suite là-dedans, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments à adresser avant?
Non, c'est sûr que, écoute, d'habitude, dans la périodisation classique, la puissance puis la vitesse, c'est vraiment la pointe de notre pyramide, là, tu sais. Tout ce qui est hypertrophie, c'est vraiment plus la base. Tout ce qui est force max puis force relative, c'est un peu plus haut. Puis vraiment, le top, la pointe, là, c'est la puissance puis la vitesse. Fait que c'est sûr que si un athlète manque soit d'hypertrophie ou il manque de force, puis qu'il s'en va directement en puissance, c'est pas l'idéal, OK? Fait que c'est sûr qu'il faut pas sauter directement dans un entraînement de puissance si ça fait 8 semaines qu'on se pogne le beigne puis qu'on fait rien. Faut commencer avec quelque chose d'autre. Par contre, c'est sûr que si tu pratiques un sport de puissance puis tu t'entraînes pas ta puissance ni ta vitesse, on va avoir un problème. Okay? C'est sûr que tu performeras pas de manière idéale. Donc vraiment, c'est sûr que c'est super important à travailler. Règle générale, plus que d'âge d'entraînement, plus que tu dois travailler sur ta puissance et ta vitesse. Okay? Moins que tu as besoin de travailler sur ton hypertrophie, moins que tu as besoin de travailler sur ta force. Encore une fois, il y a une grande variance individuelle. Il y a des gens qui ont continuellement besoin de travailler sur leur hypertrophie parce qu'ils sont soit en fonction de leur position ou en fonction de leur morphologie trop petits pour ce qu'ils ont besoin d'accomplir. Donc, ils doivent travailler là-dessus, mais c'est pas pour tout le monde. Donc, plus que quelqu'un a beaucoup de training age, ça fait longtemps qu'il s'entraîne, plus qu'il a besoin de travailler sur sa puissance et sa vitesse.
Donc, on commence
Okay.
vraiment.
Lump ensemble puissance et vitesse. Okay? Ceux qui sont habitués de travailler avec moi, règle générale, on fait une phase de puissance puis après ça une phase de vitesse pour simplifier les choses puis rendre ça plus facile, plus accessible. Les deux, on les lump ensemble. Okay? Puis c'est la même. On va en parler interchangeablement là.
OK. Donc, on commence vraiment par s'assurer que les bases ont été faites. Là, étant donné qu'on est en situation d'isolement, on a parlé de développement de force qui était un peu plus difficile dans ce contexte ici, mais qu'on pouvait quand même mettre beaucoup d'efforts sur l'hypertrophie. Donc, on commence avec un mésocycle d'hypertrophie. On passe un bon 4 semaines là-dedans. Question de se remettre de remettre tout en de rebâtir du momentum. Puis ensuite, on peut transitionner vers une phase plus de puissance. Donc, dans ce contexte ici, ça serait où une bonne place où commencer pour un athlète qui cherche à tu sais, une bonne approche, une structure pour travailler son mésocycle de puissance?
Écoute, en termes de split, OK, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sépare nos journées dans notre semaine, l'entraînement en puissance peut se permettre d'être beaucoup moins splitté. Okay? Une journée de puissance de juste chest, ça n'a pas vraiment de bon sens, ça ne marche pas. Okay? C'est pas excellent. C'est sûr qu'en termes de split, on va chercher vraiment plus un upper-lower, okay? Un entraînement de puissance seulement pour le haut de corps, un plus lower body. Il y a beaucoup plus d'exercices de puissance qui sont faciles à aller chercher en membre inférieur, là, en lower body, okay? Il y a beaucoup plus de possibilités. Puis on rajoute des trucs comme des sprints, puis comme des sauts, okay, qui sont vraiment dominants au niveau du bas de corps. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus facile d'aller travailler du 2, puis du 3, puis même du 4 fois semaine les jambes dans une phase de puissance, okay, en termes de split. Sinon, les guidelines générales d'entraînement de puissance, les temps de repos doivent être très élevés. Okay? Par très élevés, je veux dire règle générale, minimum 2 minutes, okay, voire du 3, voire du 4 minutes sans trop de problèmes. Le nombre de répétitions doit être beaucoup, beaucoup plus petit. Okay? Un set de 12, je m'en fous, ce n'est pas de la puissance. Okay? At best, c'est de la puissance endurance, ça ne peut pas être plus que ça. Okay? Donc, des séries, là, en général, ça va être entre du 2 et 5 répétitions à la limite, là, mais en général, là, c'est 2 ou 3 répétitions, c'est pas mal ça, de la puissance. Par contre, pour compenser, le nombre de séries peut être très élevé. Okay? Fait que ça peut être facilement un 10-7 de 3 okay? sur un exercice, ce dont on a discuté un peu là, sur la modalité de sélection d'exercice. Fait que, nombre de séries très élevé, okay? Temps de repos très élevé aussi, ce qui prend beaucoup de temps. Okay? Fait que c'est sûr qu'un entraînement de puissance, c'est demandant au niveau temps. La charge, il faut qu'elle soit beaucoup plus basse que ce qu'on va chercher dans un entraînement de force, parce que l'objectif ici, c'est de la puissance. Okay? Par contre, le intent, c'est-à-dire l'accélération qu'on met dans la barre, OK, faut toujours qu'elle soit maximale. Que ça soit que tu lèves des dumbbells, que tu lèves ton propre poids, que tu garoches un poids de 10 livres au-dessus de ta tête le plus haut possible, il faut qu'à chaque répétition, tu essaies d'aller chercher le plus de recrutement musculaire, le plus la meilleure qualité sur chacune des répétitions. Fait que si tu as juste 3 répétitions à faire puis tu as 3 minutes de break après, assure-toi que tes 3 répétitions sont faites parfaites. OK?
Au maximum.
Puis au maximum à chaque répétition. À 80% de puissance, ça ne marche pas. On ne développe pas de la puissance. Okay.
Puis je pense que c'est intéressant ce concept-là. On a parlé beaucoup de la qualité du mouvement puis de l'intention en arrière de nos mouvements. Mm-hmm. J'aimerais juste, avant de passer à d'autres choses, qu'on s'attarde sur est-ce que c'est vraiment l'intention en arrière du mouvement qui est le plus important ou le résultat de cette le résultat de cette répétition-là. Donc, par exemple, tu as donné l'exemple de lancer une balle, lancer un poids de 10 livres au-dessus de ta tête. Donc, est-ce que c'est l'intention d'accélérer la balle ou le poids le plus rapidement possible qui est l'important ou la hauteur que ce poids-là va voyager à toutes les répétitions?
L'intention, c'est ce qui est le plus important. La hauteur, c'est le résultat de ton intention.
C'est ça.
On prend un ballon de 10 livres et on essaie de le lancer le plus haut possible. La première fois, tu lances 20 pieds puis tu essayais de ton mieux. Puis là, ton set d'après, tu te reposes. Puis là, pour une quelconque raison, ton système musculaire est mieux réchauffé, ton système nerveux il est plus excité, il est plus à coche, puis tu lances 22. Ton intention était la même. Okay? Donc, techniquement, ton effet d'entraînement va être semblable, mais ton résultat est meilleur.
OK. OK. Donc, bien important de s'assurer qu'on est en train de mettre le maximum d'efforts dans le mouvement qu'on est en train d'exécuter mm-hmm. pour avoir le meilleur résultat d'entraînement. On a parlé de split, où ce que là, on pouvait augmenter la fréquence de travail par groupe musculaire dans notre semaine. Mm-hmm. Est-ce qu'on a parlé de grease the groove au niveau du développement de la force. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser dans le contexte de puissance?
Pas particulièrement, parce que le problème avec la puissance, c'est que le réchauffement qu'on a besoin est en général un petit peu plus élevé. Okay? C'est possible pour quelqu'un de faire un squat à 80% de son max avec un réchauffement très minime. C'est faisable. Okay? Par contre, faire un sprint à 80-90% de sa puissance sans réchauffement, suicidaire. Okay? Surtout si tu as un bon power. Quelqu'un qui court un 40 en 6 secondes peut le faire relativement froid, pas trop de problème, parce qu'il n'y a pas beaucoup de puissance qui est générée. Demande à un gars qui court n'importe quand un 40 en bas de 5 secondes de le faire pas réchauffer, c'est sûr qu'il se claque. Okay? Surtout si on parle de quelqu'un qui a vraiment une bonne puissance. Donc, grease the groove, c'est pas vraiment une option intéressante ici, parce que le réchauffement est beaucoup, beaucoup trop long okay, pour faire un entraînement. Puis, si le système nerveux il descend juste un petit peu dans l'entraînement de puissance, les résultats sont vraiment pas bons.
OK. Puis là, ça fait deux fois maintenant que tu parles de système nerveux. Puis évidemment, dans l'entraînement de puissance, ça vient avoir un gros... Ça vient vraiment prendre une grosse place. Mm-hmm. Est-ce que des manières pour nous autres de déterminer si l'entraînement en puissance qu'on est en train de faire en ce moment est aussi efficace. Donc, est-ce qu'on est en train de... est-ce que notre système nerveux il est assez allumé pour que ça pour qu'on ait un résultat d'entraînement?
Oui. Règle générale, là, à la fin de... Vraiment, à la portion puissance d'un entraînement de puissance, là, tu devrais te sentir mieux que quand tu as commencé. OK? Tu devrais pas te sentir comme... Oh, ça, c'était vraiment difficile, là. Comme, tu sais, j'ai vraiment... Tu devrais pas te sentir comme ça. Tu devrais te sentir comme si je te dis, hey, on fait un sprint, je vais te clencher. Tu devrais te sentir bien, tu devrais te sentir plein d'énergie, tu devrais te sentir moins fatigué que quand tu as commencé. OK? Complètement le contraire de si on fait une hypertrophie que si on fait de l'endurance. Après un training d'endurance, c'est supposé être à bout, à terre, t'es supposé être en train de respirer comme un malade. C'est normal, c'est ça l'objectif. En entraînement de puissance, les répétitions sont tellement courtes, les repos sont tellement longs que t'es pas supposé être fatigué. OK? C'est pas supposé être comme ça.
Donc, c'est comme une situation de stimulate, don't annihilate. C'est un peu cette approche-là.
Ah, 100%, 100%. Ouais.
Donc, quand est-ce qu'on peut... On parle de répétitions par série qui sont vraiment basses. Donc, moi, je suis un joueur de football. Je vais aller sur le terrain. Je vais faire des sprints. Je vais peut-être faire, tu sais, 6 séries de sprints sur 40 verges ou quoi que ce soit. Quand est-ce que je peux... Donc, moi, je veux continuer à faire ça jusqu'à temps que je commence à sentir mon énergie commencer à baisser. Puis là, c'est un bon signe qui me dit, OK, ton système nerveux, il y en a eu assez. Il est temps de terminer l'entraînement là.
100%. Normalement, là, dans une situation idéale, on utilise des timing gates parce que là, on peut savoir, OK, ta première répétition, tu l'as couru en 4 bits. Puis là, tu es en train de monter, tu es rendu à 4-9. C'est fini, on l'arrête. On veut pas des répétitions pas de qualité. Tu sais, c'est un petit peu comme en haltéro parce que si ta répétition, il y a un breakdown technique à cause qu'il y a de la fatigue accumulée, en général, on arrête parce que là, on n'a pas un patron moteur, on renforce pas un patron moteur qu'on a envie de renforcer, on renforce un mauvais patron moteur, ce qu'on veut pas faire.
OK. Puis en parlant de patron moteur, le travail de changement de direction, puis tous les autres aspects qui rentrent dans nos entraînements de puissance, un peu comment est-ce qu'on peut pour un athlète, comment est-ce qu'on peut structurer un entraînement de puissance pour qu'on puisse adresser tous ces différents enjeux-là?
Écoute, on pourrait diviser l'entraînement de puissance que les athlètes ont à faire présentement en deux grosses catégories. La première, ce serait la partie vitesse, la partie accélération puis changement de direction. La deuxième, ce serait la partie pliométrie. Okay? Fait que ça, c'est comme nos deux branches. Okay? On n'est pas obligé de les séparer, mais c'est les deux choses qui sont différentes à faire. Dans une sous-branche de notre partie course, okay, c'est notre vitesse linéaire, okay? C'est-à-dire en ligne droite. À partir de là, il y a bien des choses qu'on peut travailler, mais ça, c'est définitivement une des premières parties. La deuxième, c'est la partie changement de direction, okay, qui est tout aussi importante. Le rapport, le ratio de qu'est-ce qu'on fait en linéaire puis qu'est-ce qu'on fait en multidirectionnel va dépendre de la position puis va dépendre des forces et faiblesses d'un athlète. Okay? Un DB a besoin de beaucoup plus de multidirectionnel qu'un receveur. Okay? Il n'y a pas une différence énorme, mais il y en a une. Okay? Donc ça, il faut que ça soit mis en contexte dans l'entraînement. Après ça, si on parle de notre autre branche, on a vraiment notre branche qui est vitesse, on a notre branche qui est pliométrie. Okay? Dans notre branche de pliométrie, on a en gros trois parties. Okay? On a notre pliométrie verticale, okay? On a notre pliométrie horizontale, on a notre pliométrie latérale. La latérale, c'est celle qui est un peu le plus risquée à faire. Okay? Horizontale puis verticale, okay, c'est vraiment les plus basiques. Puis à partir de là, bien, c'est sûr qu'il y a plein d'autres sous-catégories. Okay, c'est-à-dire avec approche, pas d'approche, avec un choc ou pas. Là, il y a beaucoup d'autres choses, puis on se complique la vie un peu. Là, si on parle d'exercice purement haut du corps là, pour la puissance, bien, on revient au même basic qu'on a parlé dans l'entraînement de force hier. Est-ce qu'on parle de push-up? On parle de chin-up, OK? Sauf que là, on réduit la charge au max, OK? Puis on augmente l'intention derrière l'exercice puis la puissance qui est générée, là.
Super cool. Donc, on peut rentrer vraiment en détail dans dans le développement de la puissance, puis ça va varier beaucoup d'un athlète à un autre. Mais règle générale, si on couvre un peu ces trois aspects-là, puis on travaille sur différents plans, on devrait être bien équipé pour, on devrait bien s'en tirer quand même, sans avoir quelque chose de trop structuré.
100%. Écoute, nous, on va devoir couper ce cours. On est déjà à 15 minutes. Ça passe vite. S'il y a des athlètes, des gens qui sont perdus au travers de ça, qui ont besoin d'un coup de main, qui ont besoin de nous parler, écrivez-nous soit en DM, soit à moi, soit à Charles ou sur le compte OP Athlétique. OK? Écrivez-nous. On va pouvoir vous donner un coup de main avec votre périodisation puis votre planning pour le reste de l'été.
Puis prenez soin de vous autres. On va se revoir vendredi avec un autre petit épisode.
Yes. All right. Bye tout le monde.
Ciao, Valou.